Monde.
La marche du monde, l'histoire de notre 20e siècle, Valérie Nivelon.
Vive le Québec libre, un des grands discours du 20e siècle, un discours prononcé par le général de Gaulle le 24 juillet 1967 à Montréal. C'était il y a 40 ans et c'est tout de suite dans la marche du monde.
Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas ce soir ici et tout le long de ma route. Je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Outre cela, j'ai constaté quel immense effort de progrès, de développement et par conséquent d'affranchissement vous accomplissez ici. Et c'est à Montréal qu'il faut que je le dise, parce que s'il y a au monde une ville exemplaire par ses réussites modernes, c'est la vôtre. Si vous saviez quelle affection la France recommence à ressentir pour les Français du Canada. Si vous saviez à quel point elles se sentent obligées de concourir à votre marche en avant, à votre progrès, c'est pourquoi elle a conclu avec le gouvernement du Québec, avec celui de mon ami Johnson, des accords pour que les Français de part et d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Le concours que la France va tous les jours un peu plus prêter ici, elle sait bien que vous le lui rendrez parce que vous êtes en train de vous constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires qui feront l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la France. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre.
La foule en liesse, la foule qui crie sa joie, c'est un événement extraordinaire que ce discours de De Gaulle, que ce soutien de la présidence française à la cause des indépendantistes, un événement dont notre témoin Léonce Boudreau se souvient parfaitement. Il est à l'époque journaliste pour le Soleil de Québec, il a suivi l'événement à la télévision, son émotion est restée intacte. Écoutez son témoignage recueilli par Amélie Norel.
Pour dire les choses simples, on est tombé en bas de notre chaise. On l'espérait, mais on croyait pas qu'il ferait un tel affront au gouvernement canadien. Et il l'avait fait en deux temps. Je me souviens très bien, c'était « Vive le Québec ». Et là, un moment de silence et « Vive le Québec libre ». Moi, j'avais l'impression d'être sur place devant l'hôtel de Ville de Montréal quand il a lancé ce cri-là. Et vous voyez, moi-même, comme journaliste pourtant qui suis habitué à des événements assez singuliers, assez spectaculaires, ça a été un bouleversement dans la salle de rédaction, ça a été un cri de joie, même chez les journalistes qui, en principe, doivent être assez neutres face aux situations.
Vive! Vive le Canada français et vive la France!
C'est avec vous, Zeynaël Tibi, que nous allons revenir sur ce fameux discours. Les Québécois sont tombés en bas de leur chaise, selon l'expression de Léonce Goudreau. Vous, vous en avez encore la chair de poule. Vous êtes présidente de l'Observatoire d'études géopolitiques, auteur de l'ouvrage consacré au Québec, l'Amérique aux Français, aux éditions Idées Livres. Vous me signalez d'ailleurs que ce livre est traduit en arabe, donc il faut le dire. Et vous êtes également journaliste à la Revue du Liban. Alors, ce discours, il faut d'abord le replacer dans le contexte de l'époque, Zeina El Tibi. De Gaulle, il a 77 ans. Nous sommes après l'indépendance de l'Algérie. Les accords d'Évian datent de 62. Et De Gaulle, c'est quand même un anti-américain assez marqué.
Oui, tout à fait. À part le fait politique de Gaulle à l'époque vis-à-vis des États-Unis, on peut aussi penser qu'il avait vraiment une affection spéciale pour le Québec. Pour resituer ce discours dans son contexte, il était en visite officielle au Canada. Il a préféré commencer cette visite par le Québec, en allant aussi à la ville de Québec. Il a choisi de faire le chemin du roi pour aboutir donc à Montréal le soir et faire sa fameuse déclaration. En fait, à Québec, à la ville de Québec, il avait déjà fait des discours où il avait dit « Vive le Québec !» Mais il s'était contenté du Québec. Mais pendant tout ce trajet, il a vu et a senti vraiment le besoin de ce peuple d'être reconnu. Et il faut se rappeler aussi qu'il y avait cette révolution tranquille qui se mettait en marche dans la société québécoise. Et le général de Gaulle, après son discours, donc, a lancé cette fameuse phrase « Vive le Québec libre ».
C'est donc une bombe que lâche de Gaulle ce jour-là. La foule des Québécois venus l'écouter explose. On l'a entendu et notre témoin, Léonce Goudreau, lui, revient maintenant sur sa réaction de journaliste, devant maîtriser tout de même son émotion et devant couvrir l'événement.
C'était une des premières fois où je n'avais aucune difficulté à décider de la manchette et des paroles. Ça a été tout simplement « Vive le Québec libre » à la une, en grosse manchette du journal et presque tout un cahier aussi là-dessus. Et on savait que pendant plusieurs jours, l'actualité serait en vente. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais évidemment, même si au plan journalistique, je devais être assez neutre, je suis quand même un citoyen et je croyais à l'indépendance, à la nécessité de l'indépendance du Québec. Et c'est sûr, tout au long de, c'est-à-dire au cours de la nuit et le lendemain, on était tous d'accord, on disait c'est effrayant ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais en même temps, il nous donne un coup de pouce extraordinaire.
Zeina El Tibi, ce que ressent Léonce Goudreau et ses confrères journalistes, c'est-à-dire cette soudaine mise en lumière de la cause indépendantiste québécoise, est-ce que ça vaut uniquement pour le Québec ou est-ce que à ce moment-là, cette cause, on peut dire qu'elle prend une dimension internationale?
À mon avis, elle a certainement pris une dimension internationale et je vais répondre d'une façon tout à fait personnelle. J'étais gamine à cette époque-là et quand j'ai entendu ce discours, je me suis posé la question, pourquoi libre? Et à l'époque, il faut se remettre dans cette ambiance. Il y avait la guerre en 67 au Liban, la Palestine qui était en train de se perdre au fur et à mesure. Donc, les réfugiés qui viennent au Liban, tout ça, ça nous a fait penser que peut-être De Gaulle parlera aussi de la liberté de ce peuple-là. C'est pour ça que ce discours m'est resté, mais vraiment dans le cœur.
Vous êtes à ce moment-là à Beyrouth?
Je suis à Beyrouth.
Vous avez une dizaine d'années?
Voilà, voilà. Et ça m'a vraiment attiré l'attention, même gamine. Et je crois que je ne suis pas la seule. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup de Libanais et de Palestiniens ont une admiration pour le général de Gaulle.
C'est également un symbole pour la francophonie parce que entre anglophones et francophones au Canada, à l'époque, on peut quand même parler d'un conflit d'intérêts. Il y a des enjeux de part et d'autre.
Bien sûr, à part les enjeux, si vous voulez, ce qui est intéressant quand on voit l'histoire du peuple québécois, comment ce peuple a lutté pour son identité culturelle, sa langue en premier. C'est vrai qu'au départ, c'était grâce au clergé qui a beaucoup insisté pour que la langue française soit toujours vivante. Mais après, avec la Révolution tranquille, les gens, enfin les Québécois se sont un peu éloignés du clergé. Il y a eu une laïcisation de la société et surtout de l'éducation. Et là, il y a eu aussi la loi 101 qui imposait la langue française, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand les Québécois voulaient parler français, les anglophones leur demandaient de parler « speak white », d'où ce fameux poème de Lalonde, « speak white ». Quand vous lisez ce poème, vous en avez les larmes aux yeux, parce qu'on les traitait de nègres blancs.
C'est ça, « speak white », ça veut dire « parler blanc ».
Parler blanc, et parler blanc, c'est parler anglais. Donc quand on parlait français, on parlait nègre. Alors là, avec cette révolution tranquille qui a débuté un peu avant peut-être les années 60, chaque Québécois reprenait conscience qu'il avait une identité à part. Vous avez des Québécois qui demandent évidemment leur souveraineté, l'indépendance, mais vous avez aussi des Québécois qui ne cherchent pas cette indépendance, mais qui tiennent absolument à leur identité.
On voit bien donc que dans cette société québécoise, il y a un véritable élan, il y a un potentiel vers justement le politique. On n'en est pas encore là, mais peut-être justement que De Gaulle, à ce moment-là, permet aux Québécois de passer une vitesse supérieure. C'est en tout cas le sentiment de notre témoin, Léonce Goudreau.
On ne croyait pas qu'un chef d'État étranger puisse intervenir dans la politique intérieure d'un pays. On ne croyait pas qu'il allait aller jusqu'à ce point-là. Mais au fond, c'est un peu faux parce qu'on connaissait évidemment la réputation du général de Gaulle, qui a toujours été un leader très indépendant. Il l'a été beaucoup avec l'Amérique, avec les États-Unis en particulier. Donc, malgré la diplomatie, malgré ce que la diplomatie lui imposait, ça pouvait être possible. Et on savait que ça allait choquer si jamais ça devait arriver. Et c'est arrivé. Au fond, il a dit ce que beaucoup, en tout cas, une grande majorité des Québécois souhaitaient qu'ils disent. Et tout le long, parce qu'il s'est arrêté dans tous les villages le long du fleuve jusqu'à Montréal, et à chaque fois, c'était un peu ce que les gens lui demandaient. Je me souviens qu'à certains moments, des gens criaient « Vive le Québec libre !» Donc, au fond, il a dit ce que les gens souhaitaient qu'ils disent.
De Gaulle, à ce moment-là, devient porte-parole de la cause indépendantiste, porte-parole des Québécois, tout simplement. Une cause qui n'a pas encore de parti politique à part entière. Alors, il y a quand même des personnalités politiques québécoises engagées, comme René Lévesque. On est encore au Québec à la genèse des partis politiques indépendantistes, qui n'existent pas encore en soi. C'est quand même un moment charnière, Zeina El Tibi,
oui,
d'un point de vue politique.
Hein. Tout à fait, c'est très vrai. Il y avait cette révolution tranquille qui est débutée, qui commençait. Il y avait un changement, le Québec s'ouvrait vers le monde. Je crois que l'exposition universelle a beaucoup aidé aussi à attirer les Québécois vers les grandes villes. Donc tout ça, c'était en marche. Il y avait des personnalités politiques, bien sûr, très marquantes sur la scène politique québécoise. Mais avec René Lévesque, si vous voulez, quand il a formé en 68 le Parti québécois, il a donné un tournant, effectivement, à cette politique-là pour montrer une différence entre le Parti libéral, qui était beaucoup plus collé, entre guillemets, à Ottawa. Et donc, le Parti québécois s'est affirmé comme parti souverainiste. On a nationalisé, par exemple, Hydro-Québec. Hydro-Québec, qui est une grande entreprise d'électricité. Hydro-Québec est arrivé même à vendre de l'électricité aux États-Unis. C'est le gouvernement québécois, au fur et à mesure, si vous voulez, qui a pris de l'importance.
Donc c'est bien ce que dit De Gaulle, c'est-à-dire qu'il y a une maturité économique, voire politique suffisante de la part de la province canadienne à ce moment-là pour prétendre à l'indépendance?
Oui, il y a une maturité politique, il y a une évolution, il y a une ouverture sur le politique en général. Le peuple québécois se sentait prêt à affronter l'avenir sans l'appui du gouvernement canadien. René Lévesque fonde en 68 le Parti québécois qui vraiment demandait l'indépendance du Québec. Mais bon, il y a le Parti libéral qui joue aussi son rôle. Vous avez des Québécois qui ont peur, en fait, de quitter le Canada. Il y a autre chose. Même les Canadiens, si vous voulez, qui ne veulent pas que le Québec lâche le Canada, ont peur d'une chose, c'est d'être assimilés par les États-Unis.
Voilà.
Dans ce cas, si le Canada n'a plus cette identité française, francophone au sein de la Confédération canadienne, il n'a plus, entre guillemets encore, lieu d'être. Ils ont peur d'être assimilés, en fin de compte. Si vous voulez, les Québécois ont fini par imposer leur manière et leur identité à la Confédération canadienne.
Le Laurence Goudreau, alors journaliste au Soleil, notre témoin de la Marche du Monde aujourd'hui, rappelle, comme vous, hein, Zeina El Tibi, vous êtes d'accord que De Gaulle a véritablement lancé ce mouvement d'indépendance.
Il a fait connaître au monde entier un désir d'indépendance chez les Québécois. Nous étions à ce moment-là assez minoritaires. Et donc, c'est évident que ça a été un coup de pouce extraordinaire et une reconnaissance. On aime beaucoup être reconnu par d'autres que soi, surtout venant de la part du général de Gaulle. On n'aurait pas pu trouver meilleur ambassadeur pour le mouvement indépendantiste. Donc, probablement, il a accéléré le mouvement d'indépendance et transformé complètement les relations entre le Canada et le Québec. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement canadien a modifié ses approches face au Québec et tout ça, a essayé en cours de route, mais avec beaucoup de difficultés, à accorder un peu d'autonomie au Québec. Et en cours de route, il y a eu une progression, comme vous le savez, il y a eu à un certain moment, on a approché le 50% au référendum de 1995. Mais à ce moment-là, je crois que De Gaulle n'avait plus d'importance. En fait, il a transformé le mouvement indépendantiste dès le départ. Et après ça, ça a été une question vraiment intérieure, québécoise et canadienne.
Zeina El Tibi, revenons effectivement sur ces conséquences directes de ce discours de Gaulle. C'est quand même 40 ans d'histoire. Alors le Québec, il n'est pas libre, mais il a pris énormément d'autonomie en 40 ans. On peut peut-être un petit peu revenir sur les trois grands aspects qu'on a pu voir dans cette émission. Tout d'abord, bien sûr, le passage au politique. Vous l'avez dit avec cette création du Parti québécois, avec ce leader, René Lévesque, qui donc à l'époque a quitté le Parti libéral pour fonder le PQ.
Le PQ, tout à fait. Mais si vous voulez, effectivement, je reviens au fait que le général de Gaulle a donné une légitimité vraiment à cette politique indépendantiste. Mais malgré le fait que le Québec n'est toujours pas indépendant, le Québec vole de ses propres ailes. Aujourd'hui, vous marchez dans les rues de Montréal, vous entendez parler français. Avant, c'était pas le cas. Ils ont imposé cette identité québécoise.
Je suis défriché, pas défroqué. En dessous de mes cheveux, j'ai ma tête. Un Québec là, ça c'est mon bar. Chose, oui, ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête. Comprends-tu ça? Comprends-tu ça?
Est-ce que clairement, de votre point de vue, Zeina El Tibi, ce mouvement donc politique, cette création de partis, les avancées institutionnelles qu'ont gagné les Québécois ont vraiment participé aussi, justement, à la force de la francophonie au Québec?
Certainement. D'ailleurs, c'est un Québécois parmi d'autres personnes, bien sûr, qui était à l'agence intergouvernementale de la francophonie, qui est M. Jean-Marc Léger, qui a beaucoup milité pour la souveraineté du Québec, mais aussi pour le français. Le Québec est derrière la francophonie, effectivement, parce qu'on a vu combien il a lutté pendant des siècles pour sauvegarder son identité à travers sa langue. Donc, il attache beaucoup d'importance au rayonnement de la francophonie dans le monde, parce que en appuyant la francophonie dans le monde, il se protège et il protège sa propre langue. Donc, je ne pense pas, franchement, que le Parti québécois ait perdu son pari. Aujourd'hui, la situation est différente. On est dans une mondialisation qui est subie par tout le monde et non plus seulement par le Québec. Donc, le Québec, si vous voulez, est en train d'évoluer avec le reste du monde et sinon peut-être plus en avant parce qu'il y a eu des avancées économiques, technique tellement importante que le Québec a devancé les autres, en fait. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler d'échec, parce que aujourd'hui, le Québécois est fier d'être Québécois.
Donc, un pari gagné tout de même.
Je crois.
Merci Zeina El Tibi. Je rappelle votre ouvrage, Québec, l'Amérique en français, aux éditions Idées Livres. Quant au discours de De Gaulle, vous pouvez le retrouver sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Quant à l'équipe de la Marche du Monde, Isabelle Godineau, Pierre Bilot, Amélie Norel, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre Marche du Monde consacrée à l'Iran.
Je suis québécois. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour rien. Peut-être pour rire en attendant. rien.